Les Philistins rassemblèrent leurs troupes pour la guerre. Ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Ils dressèrent leur camp entre Soco et Azeka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils dressèrent leur camp dans la vallée du Térébinthe, et ils se rangèrent en ordre de bataille face aux Philistins. Les Philistins se tenaient dans la montagne, d'un côté, et Israël se tenait dans la montagne, de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un champion sortit alors du camp des Philistins et s'avança. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait 5000 sicles. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance en fer pesait 600 sicles. Le porteur du grand bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et cria aux lignes d'Israël. « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille ? Ne suis-je pas, moi, le Philistin ? Et vous, n'êtes-vous pas les gens de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il réussit à me battre, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui, si je le bats, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je lance en ce jour un défi aux lignes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent terrifiés. Ils avaient très peur. Or, David était fils de cette Éphratite de Bethléem de Juda, nommée Jessé, qui avait 8 fils et qui, au jour de Saül, était un vieillard. Les 3 fils aînés de Jessé étaient partis pour la guerre derrière Saül. Voici le nom de ces 3 fils qui étaient partis à la guerre. Éliab, le premier-né, Abinadab, le deuxième, et Shamma, le troisième. David était le plus jeune. Comme les 3 aînés étaient partis derrière Saül, David allait chez Saül, puis il revenait pour faire paître le troupeau de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta ainsi pendant 40 jours. Jessé dit à son fils David, « Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et ces 10 pains, je te prie, et cours les porter à tes frères dans le camp. Tu apporteras aussi ces 10 fromages au chef de leur fratrie. Tu verras comment vont tes frères et tu prendras un gage de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée du Térébinthe et font la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin. Il laissa le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit, comme Jessé le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée partait pour le front et lançait des acclamations de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en ordre de bataille, ligne contre ligne. David se défit de son équipement, le laissa à celui qui gardait le matériel et courut vers le front. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Tandis qu'il parlait avec eux, le champion des Philistins monta de leur ligne. Il se nommait Goliath, c'était un Philistin de Gath. Il tint le même discours et David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël reculèrent. Ils avaient très peur. Les hommes d'Israël disaient, « Avez-vous vu monter cet homme ? C'est pour défier Israël qui monte. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses. Il lui donnera sa fille et il exemptera d'impôts sa famille en Israël. » David dit aux hommes qui se tenaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et relèvera le défi lancé à Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, qui ose défier les troupes du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, « Voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. » Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler aux hommes, se mit en colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce petit troupeau dans le désert ? Je connais bien, moi, ton arrogance et ton cœur mauvais. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? En voilà une affaire. » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et lui posa les mêmes questions. On lui répondit comme la première fois. Les hommes qui avaient entendu ce que disait David en informèrent Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de lui. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec ce Philistin. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller vers ce Philistin pour te battre avec lui, car tu n'es qu'un jeune garçon. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Je faisais paître le troupeau de mon père. Quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je lui courais après, je la frappais et je délivrais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que j'ai abattu le lion et l'ours. Le Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a défié les troupes du Dieu vivant. » David dit encore, « Le Seigneur, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül à sa ceinture, par-dessus ses habits, et il essaya vainement de marcher. Il n'était pas entraîné. Il dit alors à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cela, car je ne suis pas entraîné. » David s'en débarrassa et prit son bâton, se choisit 5 pierres, polies dans l'oued, et les mit dans son sac de berger, dans sa besace. Puis, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son grand bouclier. Le Philistin toisa David avec mépris, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux, de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Puis le Philistin maudit David par ses dieux. Enfin, le Philistin dit à David, « Viens à moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. En ce jour, le Seigneur te livrera à moi. Je te frapperai et te couperai la tête. En ce jour, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et ainsi, toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Ainsi, toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur sauve, car le combat appartient au Seigneur, et c'est lui qui vous a délivré de nous. » Aussitôt que le Philistin se remit à s'approcher de David, David se dépêcha de courir vers le front à la rencontre du Philistin. David mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. La pierre pénétra dans le front du Philistin, qui tomba face contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le mit à mort, sans avoir d'épée à la main. David courut près du Philistin, il lui prit son épée, la tira du fourreau et le tua. Il lui coupa la tête avec l'épée. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Aussitôt, les hommes d'Israël et de Juda lancèrent des acclamations. Ils poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent sur le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et Écron. Après avoir poursuivi les Philistins avec ardeur, les Israélites revinrent et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et l'apporta à Jérusalem. Il mit dans sa tente les armes du Philistin.
Merci Anne-Sophie pour cette lecture, un peu plus longue qu'à l'accoutumée, mais pour avoir l'ensemble du récit, il faut lire jusqu'à la fin, ou en tout cas jusqu'à ce verset 54. En France, on utilise assez souvent l'expression « c'est David contre Goliath ». Hier encore, je l'ai entendu à la radio, à propos de la finale de la Coupe de France, où des supporters de Guingamp disaient « voilà, nous, les Guingampais, on va jouer contre Goliath ». Rennes, alors je ne sais pas si vraiment Rennes c'est Goliath, mais enfin on comprend ce qu'il voulait dire. Parfois on utilise l'expression pour parler d'un mouvement social, les ouvriers de telle petite usine qui se mettent en grève face à la grande multinationale, etc. Puis on va dire c'est David contre Goliath. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand on entend l'expression, il est rare qu'elle soit utilisée pour parler du récit biblique de David et Goliath. En revanche, si on a grandi dans une famille chrétienne, je sais que c'est le cas de certainement pas de tous, mais de pas mal d'entre nous, eh bien cette histoire de David et Goliath, on la connaît assez bien. C'est un récit mémorable, un récit captivant, qui fascine les enfants et qui trouve aussi un écho chez les adultes. Mais la question se pose... Pourquoi cette histoire est-elle dans la Bible ? Et quelle est son utilité pour nous ? Alors pour certains commentateurs de la Bible, sans nier la valeur historique de ce récit, il est surtout pertinent pour nous à partir du moment où nous spiritualisons son message. Alors par exemple, un auteur chrétien assez connu, l'auteur Max Lucado, a écrit un livre qui s'appelle « Face à vos géants ». Et voici l'introduction. « Vous connaissez votre Goliath ? Vous reconnaissez sa démarche, le tonnerre de sa voix. Il vous provoque avec des factures que vous n'arrivez pas à payer, des gens à qui vous n'arrivez pas à plaire, de mauvaises habitudes auxquelles vous ne parvenez pas à renoncer, des échecs que vous n'arrivez pas à oublier. Mais comme David, vous pouvez faire face à votre géant, même si vous n'êtes pas le plus fort, le plus intelligent, le mieux équipé ou le plus saint. » Alors, il est légitime de chercher en quoi la Bible s'applique à notre vie de tous les jours. Et c'est vrai que les récits bibliques sont pleins de leçons spirituelles importantes. Mais à force de raconter ce récit un peu comme une légende, un peu à la Peter Pan ou quelque chose comme ça, ou bien comme une allégorie pour nos factures impayées, on risque quand même de passer à côté d'un message plus essentiel de ce texte. Et je voudrais qu'on parte de l'hypothèse suivante ce soir. Le héros de ce texte n'est pas David, mais Dieu lui-même. Et la vraie problématique de ce texte, c'est ce qui se passe lorsque Dieu est mis au défi. Alors avec cela à l'esprit, on va réfléchir en deux temps. D'abord, l'honneur de Dieu face aux prétentions humaines. On passera un peu plus de temps sur ce premier point. Et puis plus brièvement, les promesses de Dieu face aux fausses sécurités humaines. D'abord donc, l'honneur de Dieu face aux prétentions humaines. Donc nous retrouvons David que nous avons laissé, entre guillemets, la semaine dernière, alors qu'il était devenu musicien préposé à la cour du roi Saül. Et là, plusieurs années semblent avoir passé, on n'est pas trop sûr de la chronologie, mais plusieurs années semblent avoir passé depuis l'épisode précédent. Et la situation du pays est grave. Israël est en guerre contre le pays voisin, la Philistie. Alors juste pour rétablir un peu le contexte aussi, on est au 10e siècle avant Jésus-Christ. Donc Israël est en guerre contre son pays voisin, la Philistie. Et depuis plusieurs semaines au moins, les deux armées se font face. Pour l'instant, sans passer au combat. David ne fait pas partie des soldats. Il est le plus jeune de sa famille. Et il reste chez lui pour s'occuper des troupeaux, vraisemblablement pour assister ses parents également. Et le verset 15 nous laisse entendre qu'il a toujours un rôle dans la cour du roi Saül. Mais le roi est lui-même au front. Et manifestement, David a des permissions, il a la possibilité de passer une bonne partie de son temps chez lui. Et son père Jessé va décider de l'envoyer au front, non pas pour combattre, mais pour retrouver ses frères et pour leur apporter des aliments. Ce qui est frappant dans ce récit, c'est que rien n'indique que David a l'intention d'être le héros du jour. Une fois arrivé au front, verset 22, sa première préoccupation est de demander à ses frères comment ils vont. D'ailleurs, son père lui avait demandé cela. Rien n'indique qu'il a l'intention d'accomplir un acte de bravoure, ni même de participer comme les autres à la bataille. Mais un tournant du récit va avoir lieu. Au verset 23, lorsqu'un des Philistins, Goliath, se présente devant le camp israélite et leur propose un défi. Et ce défi, on a déjà vu au verset 8, comment il est exprimé. « Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il réussit à me battre, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui, si je le bats, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Donc on comprend que Goliath est désigné comme représentant de son peuple et il appelle donc les Israélites à envoyer leur propre champion, en quelque sorte, combattre contre lui. Alors, on voit, le texte nous dit bien que Goliath était manifestement un homme d'une force et d'une stature exceptionnelle. Alors, le verset 4 nous dit qu'il mesurait 6 coudées et un empan. Ça vous parle sûrement tout autant qu'à moi quand on lit ça. En fait, ça veut dire 3 mètres. 3 mètres. Alors, évidemment, cette mesure, elle nous laisse un peu perplexes, peut-être un peu sceptiques. Selon le livre Guinness des records, l'homme le plus grand de l'histoire moderne, Robert Wadlow, mesurait 2,72 m. On n'est quand même pas très loin. Une photo de famille, là. Donc, on n'est quand même pas très loin. Mais est-ce que vraiment Goliath était encore plus grand que cela? Alors, dans l'absolu, c'est possible. Nous n'avons aucun élément déterminant pour contester qu'au Xe siècle, il y ait pu avoir un homme d'une taille absolument ahurissante. Il est possible qu'il y ait d'autres explications. Certains manuscrits de ce texte ont retenu pour mesure pour Goliath 4 coudées et un empan, ce qui ferait 2 mètres. Alors, c'est déjà grand, mais un peu moins étonnant. Enfin, à l'époque surtout, c'était déjà une taille considérable. Donc, cela dit, ces manuscrits qui ont cette mesure-là sont minoritaires, donc on n'est pas sûr du tout. Certains commentateurs se demandent si le texte ne veut pas dire que Goliath mesurait 3 mètres avec son armure, qui nous est décrite de façon très impressionnante par ailleurs. Pourquoi pas, on ne sait pas. Enfin, on peut toujours se demander si le narrateur n'a pas utilisé une hyperbole, une exagération stylistique pour souligner simplement que Goliath était très impressionnant. Mais à vrai dire, ça semble peu probable, parce que le récit, par ailleurs, est assez précis. On sait même le nombre de fromages que David apporte à ses frères. Donc ça semble un peu étonnant qu'il y ait un tel embellissement stylistique tout d'un coup en plein milieu. Mais on peut se poser ces questions. Mais de toute façon, le texte ne met pas particulièrement l'accent sur la taille de Goliath. Le mot géant, sauf erreur, n'est pas utilisé une seule fois dans le texte. Ce qui doit retenir notre attention ici, c'est plutôt le fait que Goliath, en mettant au défi l'armée d'Israël, met au défi le Dieu d'Israël, le Dieu véritable, l'Éternel. Quelques siècles plus tôt, Dieu avait conclu une alliance avec Israël, après avoir délivré le peuple de l'esclavage en Égypte. Et il avait adressé à ce peuple la vocation d'être son peuple. Son peuple, non pas pour rester dans son coin comme son peuple, mais pour le révéler, pour révéler dans le monde qui est Dieu. Alors écoutez ce que Dieu déclare à ce sujet, au sujet de cette alliance avec Israël, dans le livre du Deutéronome. « Aujourd'hui, le Seigneur t'a fait promettre d'être son bien propre, comme il te l'a dit, et d'observer tous ses commandements, afin qu'il te place très haut en honneur, en renom et en splendeur, au-dessus de toutes les nations qu'il a créées, et que tu sois un peuple saint pour le Seigneur, ton Dieu, comme il te l'a dit. » Dieu s'est engagé en faveur de ce peuple. Il a choisi d'en faire son peuple, sans mérite particulier d'Israël, mais simplement par un choix souverain de Dieu. Alors la Bible nous montre, lorsqu'on la lit dans son ensemble, que cet engagement envers Israël a été une première étape avant la constitution d'un peuple plus large, fait de personnes de tous les peuples, de toutes les nations, juifs comme non-juifs. C'est ce que nous révèle en particulier le Nouveau Testament, et c'est déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Mais là, dans le texte de ce soir, nous n'en sommes pas encore à cet élargissement. Et le fait est qu'en s'en prenant à Israël, sans le savoir, Goliath s'en est pris à Dieu lui-même. Et le roi Saül, il aurait quand même dû s'en rendre compte. Après tout, c'était quand même lui le roi. Il aurait dû se souvenir que Dieu s'était engagé en faveur d'Israël. Mais c'est le jeune David, simple berger de Bethléem, qui prend conscience de cela et qui va dire, verset 26, « Mais qui est donc ce Philistin, cet incirconcis ?» Ce n'est pas simplement une façon de décrire un détail, c'est le fait de dire c'est quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple de l'alliance. La circoncision est un signe de l'alliance. Qui est donc cet incirconcis qui ose défier les troupes du Dieu vivant? Et là, on imagine que ces paroles ont galvanisé les troupes d'Israël, qui ont lancé une acclamation. Bah, pas du tout. En fait, ils réagissent assez mal dans le registre. Mais que vient nous dire ce gamin qui ne connaît rien au combat? Son propre frère, Eliab, lui dit en gros, tu aurais dû rester garder tes moutons. Tu n'y connais rien. Verset 28, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce petit troupeau dans le désert? Je connais bien, moi, ton arrogance et ton cœur mauvais. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Eliab accuse David d'être venu à la bataille un peu comme on vient à un match de boxe, pour voir comment ça se passe, pour goûter un peu à l'ambiance. Et le verset 30 souligne que d'autres ont eu la même réaction que lui. Mais certains soldats, verset 31, ont quand même cru bon de prévenir le roi Saül que David avait tenu ses propos pleins d'audace. Et lorsque le roi Saül arrive, David va plus loin encore. « Moi, ton serviteur, verset 32, j'irai me battre avec ce Philistin. » Donc là, Saül lui fait remarquer la disproportion apparente entre ce guerrier surentraîné, géant, et un jeune berger. Mais la réponse de David nous place face au cœur du message de ce texte. Verset 37. « Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » David est persuadé que Dieu va intervenir en faveur de son peuple. Non pas parce que le peuple le mérite, mais parce que l'honneur de Dieu est en jeu. C'est lui, c'est Dieu, que Goliath a mis au défi, sans le savoir. Parfois, on a du mal peut-être avec cette idée que Dieu défend son honneur. Mais le Dieu de la Bible n'est pas une sorte d'esprit suprême, vaguement bienveillant et détaché. C'est un Dieu passionné, déterminé, aussi implacable dans sa justice que dans son amour. Et la Bible le décrit comme un Dieu jaloux, jaloux au bon sens du terme, c'est-à-dire qui tient à la relation qu'il a conclue avec son peuple et qui est profondément attristé de voir son peuple s'éloigner de lui et se vouer notamment à des idoles. Et puis Dieu est attaché donc à son honneur parce qu'il veut que les hommes qu'il a créés lui appartiennent à lui, leur créateur, plutôt que de se fier à diverses idoles ou prétentions humaines. En tout cas, David a parfaitement saisi la vraie problématique. C'est Dieu à qui Goliath a lancé un défi. Et donc oui, le combat qui va avoir lieu sera disproportionné, mais pas dans le sens où Goliath le pense. Même le géant ne pourra rien contre le maître de l'univers. Verset 45, David dit aux Philistins, « Tu viens avec moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. » Lorsque Dieu a décidé d'intervenir pour sauver les hommes qu'il a choisis, lorsque Dieu s'est engagé et lorsqu'il a mis son honneur en jeu, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Et ça, c'est une vérité tellement précieuse pour nous, parce que Dieu a mis en jeu son honneur pour notre salut. Lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ, Dieu a mis en jeu son honneur. Voici comment Jésus s'est exprimé quelques heures avant sa mort sur la croix. « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Évangile de Jean, chapitre 17. Dieu a mis en jeu son honneur. Il a mis en jeu sa gloire dans son intervention en faveur des pécheurs que nous sommes. D'autres textes bibliques disent la même chose. Et c'est une assurance magnifique pour nous. Parce que Dieu ne renoncera pas à son honneur. Dans ce texte, l'honneur de Dieu est mis en contraste avec la prétention pathétique de la puissance humaine. Et le texte montre à quel point Dieu déjoue cette prétention en faisant triompher ce jeune berger d'un puissant guerrier. Et quelques siècles plus tard, il a envoyé son fils comme sauveur des hommes et roi légitime du monde entier, non pas par le moyen d'une grande armée, non pas par une puissance militaire impressionnante aux yeux des hommes, mais au contraire, par l'incroyable initiative de la croix, où de la plus totale faiblesse, Dieu a puisé la puissance la plus inimaginable. Alors que les hommes croyaient condamner un illuminé, un faux messie, eh bien à la croix, Dieu était en train de briser les chaînes qui nous tenaient captifs, en faisant tomber sur son fils Jésus la condamnation de toutes nos fautes qui nous séparaient de lui. Maintenant, une question que je voudrais nous poser est la suivante. Est-ce que nous sommes autant attachés que David à l'honneur de Dieu? Comment est-ce que nous réagissons quand l'honneur de Dieu est bafoué, quand Dieu est méprisé, insulté? Et ça arrive assez souvent, il faut le dire, dans notre monde. Alors, peut-être que certains se demandent un peu où je veux en venir dans l'application. Est-ce qu'il faut sortir notre fronde et proposer un duel à ceux qui méprisent notre foi? Je ne pense pas. Le Nouveau Testament nous invite plutôt à répondre à la calomnie en rétablissant patiemment et respectueusement la vérité. Voici comment l'apôtre Pierre l'exprime. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience. Dieu peut très bien se défendre lui-même. En revanche, il nous demande de rétablir la vérité avec douceur et respect. On a vu que Dieu a fait triompher son honneur sur la prétention humaine, et on va voir aussi, plus brièvement, que ce récit souligne le contraste entre la sagesse de Dieu et les promesses de Dieu, par contre, et les fausses sécurités humaines. Au début du premier livre de Samuel, les Israélites réclament un roi pour faire comme les autres peuples. Ils veulent un roi impressionnant, un leader convaincant. Le prophète Samuel leur répond qu'ils ont le Dieu éternel pour roi et que le fait de réclamer un roi humain, finalement, c'est une forme de défiance à l'égard de Dieu. Mais Samuel ne changera pas leur avis. Et finalement, c'est Dieu qui va leur accorder un roi, le roi Saül, qui, dans un sens, correspondait très bien à leurs attentes. Un grand homme, lui aussi, moins que Goliath, mais un grand homme d'une bonne famille, impressionnant. Or, les apparences peuvent être trompeuses, et elles le sont souvent. Il y a assez longtemps, j'ai vu un film très étrange, Léolo, c'est un film québécois. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Une des choses les plus frappantes dans ce film concerne le grand frère du personnage principal. Lorsqu'il était petit, ce grand frère donc s'était fait tabasser par un camarade de classe. Et il était tellement humilié qu'il a ensuite passé des années à faire de la musculation. Et donc arrivé à l'âge adulte, il est sculpté comme Schwarzenegger et il va revoir cet ancien camarade qui lui par contre n'a rien d'impressionnant physiquement. Mais là les choses ne se passent pas comme on l'imaginerait. C'est-à-dire que le grand frère complètement baraqué, il arrive et pour provoquer le combat, il va pousser l'ancien camarade qui va réagir en le frappant et en le tabassant à nouveau, comme il l'avait fait des années plus tôt. La musculation n'avait rien changé. Les choses ne se passaient pas au niveau du physique, mais dans la tête. Et son petit frère, Léolo, commente l'événement ainsi. « Ce jour-là, j'ai compris que la peur vivait au plus profond de nous-mêmes et qu'une montagne de muscles ou un millier de soldats ne pourraient rien y changer. » Un film assez déprimant, avec un message un peu fataliste. Et c'est pour ça que la comparaison s'arrête là. La Bible n'est pas fataliste. En revanche, on voit à de nombreuses reprises que le regard de Dieu perce la vérité du cœur de l'homme. Le regard de Dieu perce ce qu'il y a vraiment en nous, notre volonté, nos intentions, nos motivations. Dieu ne s'y trompe pas, lui, derrière peut-être une montagne de muscles ou une armée très forte. Dieu ne s'y trompe pas par rapport à l'intérieur. Et on l'a vu d'ailleurs dans le chapitre précédent, l'homme voit ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Le roi Saül était peut-être impressionnant physiquement, mais dans cet épisode avec Goliath, Saül fait preuve de beaucoup de lâcheté. On a Goliath qui lance son défi jour après jour et Saül ne trouve rien à répondre, même pas une parole pour rassurer les troupes. Surtout, il ne semble même pas un instant envisager d'aller lui-même au combat contre Goliath. Et après une vague protestation, il préfère envoyer le jeune berger David. Mais encore une fois, le message central du texte n'est pas de dire regardé comme David est héroïque. C'est vrai qu'il fait preuve de courage, c'est indéniable. Mais lorsqu'on replace cet épisode dans le contexte du livre 1 Samuel, on est surtout frappé par les conséquences du mauvais choix du peuple d'Israël. Plutôt que de faire confiance à Dieu, ils ont préféré faire confiance à leurs ressources. Ils ont préféré faire confiance à ce qu'ils considéraient comme bon. Or, qui les délivre des Philistins dans notre texte ? Qui va délivrer les Philistins ? Ce n'est certainement pas Saül, le roi que les Israélites avaient demandé pour remporter des victoires. Ce n'est pas non plus David qui a délivré le peuple des Philistins, mais c'est Dieu lui-même. Le véritable roi d'Israël, c'est Dieu. Et pourtant, il n'était pas reconnu comme cela par le peuple. Les Israélites voulaient un roi qui pouvait voir de leurs yeux, qui pouvait en quelque sorte contrôler, qui avait les apparences de la puissance humaine, et c'est le fiasco total. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple malgré sa défiance. Et c'est lui, le véritable roi, qui remporte la victoire. Combien de fois nous préférons nous fier à de fausses sécurités plutôt qu'à Dieu lui-même ? Pour que notre vie soit solide, pour qu'elle soit sûre, pour qu'elle soit valable, nous devons d'abord remplir, nous pensons que nous devons d'abord remplir la checklist des attentes de notre société. De bonnes études, un emploi stable, un bon salaire, une vie familiale, sentimentale, épanouie, une bonne réputation. Et ces choses sont bonnes, mais elles ne peuvent pas nous donner une véritable sécurité. Alors déjà, sur le plan humain, elles ne sont pas toujours si sûres que cela. Dans notre monde souvent chaotique et souffrant, les déconvenues, les mauvaises surprises, les drames peuvent venir menacer ce que nous pensions être le plus sûr. Et puis surtout, ces choses ne peuvent pas nous donner la sécurité la plus importante qui soit, l'assurance d'une relation restaurée avec notre Créateur, celui qui a voulu notre vie, celui qui est le seul donc à pouvoir lui donner un sens véritable. Dieu est infiniment plus intelligent que nous, bien de s'en souvenir parfois, et pourtant, nous faisons plus facilement confiance à nos œuvres qu'aux siennes. Quand nous ne comprenons pas ce que Dieu fait, on se dit que quelque part, soit il nous a oubliés, soit il doit se tromper. Alors que notre vision est tellement plus limitée que la sienne. Et puis Dieu est tellement mieux informé que nous sur tous les sujets sans exception. Il sait tout sur tout, y compris dans notre vie quotidienne. Et a fortiori, enfin pas a fortiori, mais également ce qui se passe dans le monde. Peut-être que dans ma vie actuellement, il y a des fausses certitudes qui doivent laisser place à la confiance en Dieu. Peut-être dans votre vie aussi, il y a des choses peut-être qui sont évidentes pour nous. C'est même pas la peine d'en discuter, c'est tellement évident. Et pourtant, peut-être que le regard de Dieu sur ces choses, il est autre. Et peut-être que ce soir, nous devrions demander à Dieu de faire le ménage dans notre vie, dans notre esprit, de nous aider à remettre en question ces fausses évidences à la lumière de sa parole. Demandons-lui de nous aider à trouver en lui et nulle part ailleurs notre sécurité. Prions. Merci Père, parce que le combat t'appartient, parce que si tu as décidé de défendre ton honneur et l'honneur de ton peuple, eh bien tu agis. Seigneur, merci parce que c'est pour cela que nous avons cette profonde assurance que si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous appartenons à ce peuple qui est le tien et à qui tu as adressé des promesses, envers qui tu t'es engagé. Et nous savons que si notre vie est entre les mains de Jésus-Christ, alors il en va de ton honneur, tu ne nous abandonneras pas. Et au-delà des difficultés parfois de la vie quotidienne, au-delà des choses qui nous déçoivent ou qui sont dures à vivre, tu restaures toujours la victoire en toi. Tu restaures toujours la vie et l'espérance. Au nom de Jésus, amen.